Chapitre 21. Bien que de nature curieuse, la comtesse n'a pas osé prendre place près de la vitre. Elle a laissé Eustasio s'y installer. Il aura fallu s'armer de patience pour y accéder, et chaque siège de l'étrange petit wagon est occupé. Les passagers qui ont la chance d'avoir embarqué commandent déjà ce qu'ils s'apprêtent à vivre. Ils ont hâte, autant pour l'expérience que pour raconter qu'ils y étaient. Depuis l'inauguration, Madame de Vignolles et Eustasio passent leur temps disponible à visiter les différents pavillons de l'exposition, mais jusqu'à aujourd'hui, jamais encore ils n'étaient montés sur l'immense tour métallique de 300 mètres. La manifestation est propice aux rencontres. Lorsqu'elle croise une de ses connaissances, la comtesse présente Eustasio comme un jeune noble italien venu découvrir Paris. Les femmes ne manquent pas de minauder devant ce bel étranger doté d'un physique avantageux et d'un accent charmant. Ces dames admirent sa maîtrise de la langue tout en le dévorant des yeux. Les hommes cherchent immédiatement à évaluer sa fortune, seul terrain sur lequel ils ont une chance de lui reprendre l'avantage. Combien faut-il d'actions de la Compagnie des Mines du Brésil pour surpasser une ligne d'épaule aussi séduisante? La comtesse a pris soin d'expliquer à son protégé comment se comporter devant ces individus. Plutôt que de lui souffler ce qu'il convient de dire, elle lui a surtout conseillé de se taire. Dans cette bonne société, chaque information saisie devient une arme. Chaque révélation happée est une prise de pouvoir. Lors de ces joutes feutrées, il convient de conserver une attitude légèrement distante, de donner des réponses générales et de tourner des compliments faciles sans jamais se départir d'un sourire idéal. Celui d'Eustasio est parfait, lumineux et viril, mais il n'a pas l'habitude de l'offrir autrement que spontanément. Alors qu'il se plaignait d'avoir à le forcer, la comtesse lui a suggéré d'imaginer que c'était à elle qu'il l'adressait. Depuis, le sourire ravageur du bel Italien fait merveille. En public, il l'appelle « Madame la comtesse » et lui est duc de Perenotte. Quand ils sont à l'abri des oreilles indiscrètes, ils ne sont plus qu'Hortense et Eustasio. Eustasio apprécie plus que tout les moments où ils ne sont qu'un couple comme tant d'autres au milieu de la foule des curieux. Il aime que personne ne les distingue. Être anonyme au grand jour, pour vivre leur lien particulier sans avoir à jouer un rôle. Il a eu beaucoup de mal à accepter que sa belle lui offre les superbes habits qu'il porte. Il a d'ailleurs promis de les lui rembourser jusqu'à ses boutons de manchette et son épingle à cravate. Le départ est imminent. Un opérateur referme les portes après avoir souhaité à tous une bonne ascension au nom de Monsieur Gustave Eiffel. On raconte que souvent, c'est le grand homme lui-même qui accueille ses visiteurs. L'opérateur fait signe au machiniste assis à l'extérieur de la cabine et le voyage commence. Le roulement des câbles produit un ronflement sourd et continu. La cabine s'élève le long du pilier est. L'entrelac de poutrelles rivetées au cœur duquel ce vaisseau du futur évolue sans à-coups ne gêne pas pour voir les environs. Depuis son ouverture au public, il n'existe aucun autre endroit au monde dont on parle davantage. La tour Eiffel attire les foules et s'impose déjà comme l'attraction majeure de cette exposition universelle. Grâce à elle et à ses lumières, Paris rayonne dans tous les sens du terme. De tous les pays d'Europe et même des Amériques, en bateau, en train, à cheval, on se précipite pour la découvrir, ainsi que les autres merveilles qui s'étalent à ses pieds. Invention révolutionnaire, matière précieuse venue du bout du monde, prodige de la science, produits manufacturés d'un luxe inouï, machines fabuleuses, nouvelles énergies, c'est un festival qui réinvente la civilisation. La cabine a déjà dépassé la cime des arbres et semble désormais s'envoler au-dessus des toits des immeubles les plus hauts. La sensation d'altitude est saisissante. Il paraît qu'imperceptiblement, après le premier étage, l'inclinaison de l'appareil compense la courbe de la jambe du monument. Un exploit technique de plus pour cette construction hors norme qui les accumule. Paris se révèle peu à peu sous un angle inédit. Le mouvement d'ascension modifie continuellement la perception de la ville, dont chaque bâtiment rapetisse, alors qu'à l'inverse, la cité dans son ensemble ne cesse de s'étendre en même temps que s'ouvre l'horizon. Impressionnée, Hortense respire fort. Discrètement, elle se serre contre son chevalier servant, qui le remarque. Bien que la vue le fascine, ce rapprochement le distrait du spectacle. Il se situe à présent à une hauteur inédite. Peu d'humains peuvent se vanter d'être montés aussi haut, et ils ne font qu'arriver au premier étage de la structure. La cabine ralentit et s'immobilise. Les portes s'ouvrent et les voyageurs descendent se disperser sur l'immense terrasse. Même si l'endroit propose un théâtre, différents restaurants ou des bars, tous les plus hauts du monde, chacun se presse d'abord vers les rambardes pour admirer la vue. Dans sa longue robe d'après-midi, la comtesse paraît glisser sur le plancher. Face au spectacle grandiose, les exclamations fusent. Il n'y a que les oiseaux et les téméraires qui s'aventurent dans les nacelles des ballons captifs à gaz pour s'offrir cette imprenable perspective. Le cœur de Madame de Vignolles bat la chamade. L'expression « avoir Paris à ses pieds » prend ici tout son sens, et nul besoin d'être une vedette, un roi ou un président pour la faire sienne. Eustasio saisit la balustrade. Vue d'ici, la Seine, pourtant si large, passerait presque pour une rivière, et le palais du Trocadéro n'est pas plus grand qu'un cirque. De cette hauteur, la ville se lit comme un plan. « Ne te penche pas, » lance la comtesse restée en retrait. « J'ai si peur que tu tombes. » Il se tourne vers elle. « Auriez-vous le vertige, vous si courageuse ?» Il lui tend la main. Elle la saisit et se laisse guider. Les voilà côte à côte, appuyés à la rambarde. « Je n'ai jamais rien vécu d'aussi fabuleux, » murmure-t-elle grisée. Le visage rafraîchi par le vent, ébloui par la lumière, Hortense ne sait plus où porter son regard tant il y a à voir. Elle distingue nettement le Sacré-Cœur en construction, Notre-Dame, et même l'Arc de Triomphe. Enthousiaste comme une enfant, elle les désigne à Eustasio. Ces hauts lieux paraissent si proches qu'il semble possible de les rejoindre en quelques pas de géant dans un décor de Lilliputien. La comtesse en est certaine, elle aperçoit même son avenue. Tout à coup, une bourrasque l'oblige à retenir sa capeline ornée de plumes et de rubans de satin. Eustasio manque lui aussi de perdre son couvre-chef. L'incident les fait rire. Une casquette aurait mieux résisté, mais Hortense a insisté pour qu'il porte un haut de forme, en homme élégant. Ensemble, ils commencent à parcourir le périmètre pour faire le tour des vues offertes. Le panorama qui s'offre à eux paraît n'avoir aucune limite. Bientôt, il domine toute l'exposition. Une ville dans la ville, ou plutôt un monde entier dans la plus spectaculaire des capitales. Quand on songe que tout cela n'existera que pour quelques mois, on éprouve un vertige de plus. De leur terrasse, Hortense et Eustasio aperçoivent même la monumentale section installée aux Invalides et majoritairement consacrée aux armées. D'ici, on embrasse toute l'ampleur de la manifestation et il est aisé de comprendre que Londres et Berlin soient jalouses. Même New York se montre envieuse. Les centaines de drapeaux et d'oriflammes multicolores qui ornent les mâts ondulent dans la brise et animent l'incroyable déploiement architectural proposé aux curieux. Si les industries déploient leurs plus beaux fleurons, le passé et l'histoire n'ont pas été oubliés. Au pied de la tour, des quartiers entiers de villes exotiques ont été recréés. On aperçoit ainsi une rue d'Orient, une autre de l'Est, du Grand Nord ou d'Afrique. Tout ce que le globe compte de nations, de puissances économiques ou politiques est représenté par différents pavillons qui rivalisent de grandeur pour se faire connaître sous leurs meilleurs jours. À l'extrémité du Champ de Mars, juste après le hall central et la galerie des manufactures, se dresse la gigantesque galerie des machines. Le plus vaste bâtiment jamais construit dans l'histoire de l'humanité. Ses hautes cheminées d'angle crachent une fumée dense et blanche, symbole de la puissance du progrès. Vue de si haut, la foule en contrebas ressemble à une colonie de fourmis. Alors que les deux amants s'en amusent, un homme se présente à eux et s'incline respectueusement devant la comtesse. « Mes hommages, madame. » Devant la perplexité de son interlocutrice, il précise « Nous nous sommes rencontrés à l'automne dernier chez M. Fauvel. C'est lui qui a fourni la majeure partie des vitres qui équipent les aménagements de cette tour. Je suis Bertrand de Montereuil et je suis son associé depuis peu. Hortense lui abandonne sa main gantée qu'il honore dans une parfaite maîtrise des usages. Ces nouveaux verres plats, si résistants qu'une pierre jetée contre eux ne les briserait pas, contribuent grandement au succès de l'édifice, reprend-il. Si Madame la Comtesse n'y entend rien, monsieur est peut-être intéressé d'y investir. Eustasio ne sait comment réagir. Le dernier des noblios endimanchés s'exprime avec plus d'aisance que lui. Entre son chapeau qu'il ne sait pas tenir et ses souliers qui lui font mal, il ne fait décidément pas le poids. Après tout, Hortense serait aussi bien au bras de ce Bertrand. Elle aurait tout autant d'allure et lui ne resterait pas sans voix au risque de la desservir. Devinant sa gêne, la comtesse intervient. « Merci, cher Bertrand, je vous souhaite tout le succès possible dans cette nouvelle entreprise. Mon ami est un duc italien et ses affaires ne sont ni dans le verre ni dans l'acier. » L'homme s'incline respectueusement et se retire sans insister. « Une fois encore, vous m'avez sauvé, » la remercie Eustasio. « Je suis indigne de vous. » « Je t'en prie, ne place pas d'orgueil là où il ne te manque encore qu'un peu de pratique. » J'enrage de ne pas être de votre rang. Tout serait alors plus facile. Le rang ne fait pas l'homme, Eustasio. Sinon, ces petits princes auraient moins de mal à séduire autrement qu'avec leur portefeuille. D'ailleurs, celui-là travaille désormais pour un roturier. Viens, quittons cet endroit. Chapitre 22. Le soir venu, l'exposition se pare d'une autre atmosphère. Sans doute parce que ceux qui n'y viennent que pour se montrer sont partis aussitôt les mondanités du jour achevées, mais aussi parce que les éclairages artificiels lui donnent un relief inédit. La science est désormais plus forte que la nuit. Il n'y a que les véritables curieux pour apprécier ce spectacle. La comtesse et Eustasio sont de ceux-là. À la faveur de la pénombre qui s'étend, assurée de ne plus faire de rencontres importunes, Hortense s'autorise enfin à marcher serrée contre son homme. Ce changement d'attitude rassure bien plus Eustasio que n'importe quel serment d'amour. Ensemble, ils découvrent l'extraordinaire pavillon de l'électricité, un bâtiment assez vaste pour contenir un hôtel particulier et entièrement éclairé à l'aide d'une myriade d'ampoules aveuglantes, beaucoup plus lumineuses que n'importe quelle lampe à pétrole. Fleurs géantes et figures géométriques ont été agencées à l'aide des bulbes incandescents. Il faut se tordre le cou pour réussir à voir celles qui ornent le plafond et déversent leur pluie de lumière. Les générateurs qui les alimentent sont si puissants qu'il est impossible de se parler lorsque l'on se trouve près d'eux. Un panneau invite d'ailleurs à en faire l'expérience. En sortant, tout ébahi du miracle, Hortense entraîne son amant vers la fontaine lumineuse du sculpteur Coutan dans le jardin de l'exposition. La dernière démonstration, avant la clôture du soir, vient d'être annoncée à grand renfort de crieurs. La foule s'est massée autour du bassin à l'extrémité duquel un orchestre militaire entame les mesures d'une marche. Les premiers jets d'eau s'élèvent devant la monumentale sculpture, des silhouettes entremêlées surmontées par la déesse du progrès. Tout à coup, les voilà qui s'illuminent de l'intérieur et de différentes couleurs. L'assistance est saisie. Les figures formées par les flots projetés irradient jusqu'à ressembler à des cristaux précieux géants. Une colonne rubis, une cascade émeraude. Des orgues aquatiques s'élèvent et se parent de teintes surnaturelles. Des milliers de gouttelettes, semblables à des diamants, s'envolent dans la nuit avant de retomber dans les bassins où se mirent les statues. Ce sont plus de 300 jets d'eau qui s'illuminent d'or et de nuances changeantes. Le public s'extasie de plus belle. La lumière évolue au rythme de la musique. Le spectacle associe force et poésie en une alliance inédite. Pour Hortense, comblée, la journée s'achève comme le plus merveilleux des rêves. Après la tour Eiffel, les diamants du pavillon de l'Afrique du Sud et les admirables mosaïques arabes, elle n'arrivera certainement pas à dormir. Alors que la fontaine révèle de nouvelles figures, elle enroule son bras autour de celui de Stasio. C'est la première fois que la comtesse s'autorise ce genre de familiarité dans un lieu public. Elle a toujours eu des gestes tendres envers son compagnon, mais jusque-là, elle ne les osait que dans le secret de son boudoir, où elle n'accueille d'ailleurs plus que lui. Surpris, il s'efforce de ne pas réagir. Pourtant, il y aurait de quoi, tant il est chaviré. Ce geste le touche soudain davantage que tous les enchantements que le savoir-faire humain expose devant lui. « Vous aimez ?» lui demande-t-il à l'oreille. « J'adore !» répond-elle en se serrant encore davantage. Ce qu'il aurait voulu avoir le courage de lui demander, c'est si elle l'aimait, lui. Il aurait rêvé l'entendre lui répondre qu'elle l'adorait. Mais sa question ne porte que sur le spectacle. Une lettre ou un mot de plus ou de moins peuvent tout changer. Eustasio a tenu beaucoup de belles femmes dans ses bras, des conquêtes. Mais en présence d'Hortense, il éprouve autre chose. Ce ne sont ni son titre ni ses biens qui l'ont séduit. Il aurait pu en fréquenter de bien plus riches. C'est la personnalité de cette jeune dame qui l'a envoûté. Lorsqu'il travaillait sur le chantier de son boudoir, il a tout de suite remarqué sa liberté de ton, la vivacité de son esprit. Madame de Vignolles n'a pas peur des hommes. Elle sait les cerner au-delà des apparences qu'ils se donnent. Elle peut faire preuve de la plus extrême fermeté comme de la plus grande douceur. Son secret réside sans doute dans ce remarquable sens du discernement dont elle ne se départit jamais. Bien qu'elle le maîtrise, elle évolue en dehors du protocole en vigueur dans son milieu où tout n'est qu'étiquette. Eustasio profite du fait qu'elle est fascinée par la fontaine pour l'observer sans retenue. Les différentes lueurs colorent et redessinent son profil. Il aime sa peau au grain si fin, ses longs cils et les boucles de ses cheveux qui couvrent sa nuque, dont on devine cependant la noble courbure. Eustasio l'admire, et pas uniquement pour sa beauté. Une qualité l'a frappé lorsqu'il n'était encore que son artisan. Elle ne craint pas de dire qu'elle ne sait pas. Elle n'a jamais peur d'avouer son ignorance parce qu'elle est certaine d'avoir la capacité d'apprendre. C'est peut-être ce talent-là que Stasio apprécie le plus. L'Italien n'a jamais eu confiance en lui. Il sait pertinemment que, si son physique n'avait pas été aussi attrayant, sa vie aurait été différente. Il lui a fallu développer son art bien au-delà de ce que d'autres font pour que l'on remarque enfin davantage ce qu'il accomplit plutôt que ce qu'il paraît. Au moment même où les jets d'eau culminent dans les airs sur un temps fort de l'orchestre, Eustasio prend conscience qu'avec ses compagnons, il a eu beaucoup de chance de construire ce qui lui a permis de rencontrer celle qu'il a l'audace d'envisager comme sa bien-aimée. À la fin du morceau, après un bouquet final proprement féerique, l'eau retombe et le bassin s'apaise. L'orchestre a fini. La foule applaudit et se disperse. Le flot si vif et si lumineux l'instant d'avant n'est plus qu'une masse sombre à peine ondulante. Chacun prend le chemin du retour suivant son rang et ses moyens. Certains marcheront des kilomètres, les pieds déjà blessés par de longues heures à arpenter la foire. D'autres se paieront le luxe d'un fiacre. Les plus fortunés sont attendus par leur propre attelage. Pour éviter l'affluence, Eustasio a donné rendez-vous à celui de Madame de Vignolles derrière le quartier du Moyen-Orient. « Rentrons, Hortense. La fraîcheur s'installe et je ne veux pas que vous attrapiez du mal. » Alors que les badauds se dirigent vers les portes principales, le couple bifurque et disparaît entre des bâtiments égyptiens. Il passe sous l'arche finement ouvragée qui marque l'entrée de la rue exotique. L'atmosphère est soudain complètement différente. La voie est déserte et l'éclairage approximatif. Les nombreux balcons et les tentures suspendues créent un jeu de formes et d'ombres mouvantes. Les gens qui peuplaient cette représentation d'Afrique ont disparu. Hortense est encore dans l'euphorie de sa journée. « Quel spectacle étourdissant, ne trouves-tu pas ? È magnifico ! Lorsque nous reviendrons, je voudrais aller visiter la galerie des machines. Une amie me l'a décrite comme épouvantablement bruyante et d'une violence mécanique absolue, mais je crois cette femme assez fragile pour ne pas en avoir saisi l'intérêt. Nous irons où vous le désirez. Demain ? Je dois travailler, mais je peux me libérer pour vendredi. Je t'attendrai donc. Et si tu tardes trop, j'exigerai que tu viennes faire une retouche de plus dans mon cabinet secret. » Elle l'embrasse en riant. La ruelle est de plus en plus sombre et la foule n'est plus qu'une lointaine rumeur. Ils sont seuls. Tout à coup, une silhouette surgit sur leur route. Elle est rejointe par une seconde, puis une troisième. Les prenant pour des gardiens de l'exposition, Eustasio se justifie. « Bonsoir, messieurs. N'ayez aucune inquiétude. Nous ne faisons que rejoindre le fiacre de Madame la Comtesse, qui nous attend plus loin. » Aucun des inconnus ne bouge. Le premier répond simplement « Nous ne sommes pas inquiets. C'est toi qui devrais l'être. » Le ton est glacial et la menace palpable. Eustasio s'interpose aussitôt devant Hortense. « Nous n'avons pas d'argent sur nous, » lance-t-il, « et je vous conseille de laisser la signora en paix. Prenez garde. » Deux des inconnus éclatent d'un mauvais rire. Celui qui a déjà parlé ne bronche pas. Son attitude est de loin la plus préoccupante. L'Italien commence à se dire qu'il ne s'en sortira pas sans se battre. Qu'importe, il fera face. Il est en forme et l'idée qu'on puisse s'en prendre à Hortense décuple sa combativité. La jeune femme ne comprend pas ce qui se joue. Eustasio veille à la maintenir dans son dos pour la préserver de ses mécréants. Après avoir vérifié que la retraite n'était pas coupée, il lui souffle. « Fuyez, bellissima, courez jusqu'à l'allée centrale et cherchez-y refuge. Je vous protège. » Elle reste agrippée à lui. L'homme qui paraît être le chef exhibe soudain un poignard. « Ce n'est pas elle qui a besoin de protection. On se fiche de ta poule. » Eustasio proteste. « Comment osez-vous parler de... » L'homme le charge directement. Eustasio esquive la lame de justesse et arrive à lui asséner un coup de poing au passage. Le combat n'est pas son domaine de prédilection, mais sa vivacité lui donne encore quelque avantage. Surprise par la hargne de l'assaut, Hortense pousse un cri. Elle recule. Les deux autres attaquent à leur tour son bien-aimé. Il les repousse tant bien que mal et distribue autant de coups qu'il le peut. Malgré sa maladresse, certains portent. Ce sont maintenant trois couteaux qui le harcèlent. « Laissez-le tranquille !» hurle la comtesse. « Prenez mon collier et partez !» Elle le détache et le leur jette, mais les hommes n'en ont cure. Ils ne changent pas de proie et multiplient les attaques. Eustasio est déjà entaillé au bras et au flanc. Il se contorsionne comme il le peut pour échapper à leurs élans. Même si reprendre le dessus est impensable, il ne fuira pas. « Vaut rien !» s'écrie Hortense. « À l'aide, brute, laissez-le !» Elle vocifère, prête à se jeter dans la bataille. Mais elle n'en a pas le temps. Eustasio vient de recevoir un coup plus sérieux. Il titube en s'agrippant la poitrine avant de s'effondrer à terre. Hortense hurle de toutes ses forces et sans réfléchir s'élance vers lui. Sa chemise est tachée de sang. La terrible marque s'étend rapidement. La jeune femme tente de redresser son homme et le serre dans ses bras. Les trois agresseurs observent le résultat de leurs œuvres sans état d'âme. L'un d'eux maugré, je crois qu'il a son compte. Ils n'ont pas le loisir de vérifier. Un coup de sifflet retentit dans la nuit. Deux gendarmes arrivent en courant depuis l'entrée principale. « Que se passe-t-il par ici ?»«
Au secours !» gémit Hortense, la voix brisée.
Les trois agresseurs prennent la fuite.
« Halte là !»
crie un gendarme. Mais ces gens-là ne s'arrêtent pas quand un agent le leur demande. Ils ont déjà disparu.